Chapitre 12. Calcul de la jeunesse. Mrs. Norfield, que les circonstances avaient liée avec Mrs. Burlington à l'occasion de son mariage, avait essayé, dès son entrée dans le grand monde, de lui inspirer l'amour du jeu. Non qu'elle eût l'intention de lui nuire, car elle n'était pas plus son ennemie que son amie, mais pour avoir à sa disposition une table de pharaon. C'était une femme de haute volée. Reçue partout et sans fortune, elle obtint, à force de prières, que Mrs. Burlington ouvrirait un pharaon chez elle. Alors la maison de Mrs. Burlington ne pouvait manquer d'être bientôt remplie. Le jeu, toujours attrayant par lui-même, l'est bien plus encore chez une jeune personne, riche, belle et qui n'a jamais joué. Mrs. Burlington était à Southampton, parfaitement maîtresse d'elle-même. Elle avait laissé son époux dans un état approchant de l'imbécilité et l'invitation de sa tante avait été pour elle un motif plausible de se séparer de lui pour quelques mois. Cette jeune femme cédait à ses penchants, d'abord avec l'attrait du plaisir et bientôt avec tout le feu d'une passion. Son aimable correspondante fut négligée, ses excursions dans le pays abandonnées, les bals, les assemblées publiques oubliées. Pendant le jour, le pharaon occupait toutes ses facultés. Elle en rêvait la nuit pendant le peu d'instants qu'elle donnait au sommeil. Elle perdait aussi souvent qu'elle jouait, mais comme elle n'attachait pas beaucoup de prix à l'argent, elle y faisait peu d'attention. Et tant qu'elle eut assez pour payer, elle le perdit avec plus de grâce que les autres n'en avaient à le gagner. Si ce vertige ruineux ne gagna point Camilla, ce ne fut point un effet de la modicité de sa fortune. Elle n'avait point de goût pour le jeu. Ses passions, quoique vives, n'obscurcissaient jamais les lumières de sa raison. Elle voyait donc jouer sans danger pour elle, mais non pas sans intérêt pour les autres. Le résultat de toutes les idées sur le jeu, c'est qu'il est inutile d'en courir les hasards, que les vues qui le rendent intéressant ne sont qu'avarice et rapine, et qu'il n'aboutit également qu'à la ruine des joueurs, soit qu'ils perdent, soit qu'ils gagnent. Camilla, faisant parler les droits de l'amitié, mit sous les yeux de Mrs. Burlington les dangers de cet amusement. Elle écouta tranquillement les représentations de son amie et continua sa manière de vivre. Cependant, quelques jours après, elle demanda en rougissant à Camilla si elle pouvait lui prêter un peu d'argent. Camilla, rougissant encore plus, avoua qu'elle n'en avait point, mais elle lui proposa de retirer un billet qu'elle avait remis à Mrs. Mittin pour payer quelques dettes à Tunbridge. Mrs. Burlington, un peu remise de sa confusion, et voyant, d'après l'aveu de son amie, qu'elle n'était pas en fond, ne voulut pas souffrir qu'elle eût recours à cette ressource. Camilla, voyant que Mrs. Burlington avait perdu jusqu'à sa dernière guinée, lui fit des représentations plus sérieuses encore, mais tout aussi vaines, sur le pharaon. Et Lord Valers, en continuant à lui prêter de petites sommes, s'acquit, dans l'intimité de la famille, le privilège d'un créancier, c'est-à-dire celui d'en être un peu plus haï qu'auparavant. Camilla ne fut pas la seule qui gronda Mrs. Burlington. Mrs. Hulse voyait avec une répugnance extrême le genre de vie dans lequel s'engageait sa nièce. Mais elle-même avait, par sa conduite, perdu le droit de faire des réprimandes et sa morale ne fut point écoutée. Mrs. Mittin se trouvait alors au plus haut degré de son ambition, car Mrs. Burlington, n'ayant plus le loisir de rester près de sa tante malade, fut fort aise de trouver une personne assidue, attentive à lui complaire, prête à souscrire à ses opinions et même à charmer son humeur chagrine en lui racontant des histoires. Mrs. Mittin avait commencé sa carrière par être en apprentissage chez une marchande de mode de province. Mais elle s'était rendue si utile à une dame âgée et languissante qui demeurait dans la maison que celle-ci lui avait fait un lait assez considérable pour une femme de cette classe. De là sa manie de passer pour une femme, comme elle le disait, mais comme ce lait ne s'élevait point à la hauteur de ses prétentions, elle était obligée de ramper près des autres pour soutenir son rang. Elle était de bonne humeur, laborieuse, active, serviable, pauvre et dissipée. Point de petits offices auxquels elle ne se soumit pour se rendre utile, de flatteries qu'elle n'employa pour se rendre agréable. Son désir constant était de plaire, sa popularité s'étendait à toutes les classes de la société. Elle eût été parasite, espion, suivante, servante. Elle savait garder un secret, publier un rapport, exciter ou calmer une querelle, inventer des ressources, exécuter un plan. et le tout sous le prétexte d'obliger les autres, mais en effet par pur égoïsme, motif secret de tous les ambitieux, dans quelque rang qu'ils aient pris naissance. Camilla fut bien soulagée quand elle vit que ce n'était plus pour elle seule que cette officieuse personne restait dans la maison de Mrs. Burlington. Elle n'avait encore pu retirer d'elle ni billet, ni réponse, ni le change de ses 20 guinées. Mrs. Mitin éludait là-dessus toutes ses demandes. Et quand Camilla avait besoin de quelques fonds pour acheter les choses indispensables, au lieu de lui remettre l'argent entre les mains, elle courait les acheter elle-même en disant que les marchands les lui vendaient à beaucoup meilleur marché. Mrs. Burlington reçut un billet d'invitation pour un grand bal suivi d'un souper à l'occasion d'un jeune noble qui venait d'atteindre sa majorité. Tous les danseurs et danseuses devaient y paraître avec une espèce de costume uniforme qui consistait pour les femmes en un beau linon, plumes et ornements lilas. Cette invitation faite à tout ce qu'il y avait de beau monde à Southampton flatta d'abord Camilla. Mais un beau linon, des plumes et des ornements lilas, elle n'avait rien de tout cela. Comment accepter? Comment refuser? Cependant, elle était bien certaine qu'Edgar s'y trouverait. Quelle épreuve pour son courage! Elle posa le billet d'invitation sur la table sans avoir la force de prier Mrs. Burlington de faire agréer ses excuses et ne put prendre une résolution. Le séjour de Southampton n'avait été prolongé que par le désir de Lynmer. Encore une semaine et il fallait retourner auprès de son père et de son oncle. Mais comment retourner séparée d'Edgar? D'Edgar qu'elle espérait à chaque instant revoir sous des auspices plus heureux. Qu'un seul moment d'entrevue aurait fixé pour toute la vie. Mais où trouver ce moment si désiré? Ce n'était pas chez Mrs. Burlington, elle n'y revenait plus. Dans les assemblées, elles avaient été sacrifiées au goût dominant du pharaon. Où donc devait avoir lieu cette nouvelle explication? C'est à ce bal, à ce souper, qu'il me sera rendu, se disait Camilla, certaine de danser avec lui, d'être à table à côté de lui. Depuis tant de jours qu'ils ne se sont vus. Tourmentée par cette idée, quoique toujours indécise, elle fit appeler Mrs. Mitin et la pria de s'informer à combien se monterait le prix de tout le costume. Mrs. Mitin l'ignorait. Il fallait, pour s'en assurer, qu'elle allât à telle et telle boutique, qu'elle consultât tel et tel marchand, ce qui demanderait beaucoup de temps et ce qui devait cruellement impatienter Camilla. Enfin, un beau matin, Mrs. Mitin entra dans sa chambre avant qu'elle fût habillée, en disant « Voici, ma chère Miss, de quoi vous rendre heureuse. » Alors elle étala sur le lit une pièce de superbe linon. Camilla examine, admire et demande combien l'aune et combien il en faudrait pour l'habillement. Mrs. Mitin dit que le marchand voulait vendre toute la pièce à la fois, qu'ainsi il fallait tout prendre ou rien du tout. Camilla la pria de la reporter. Eh, mais si vous ne prenez pas ceci, ma chère, il n'y a rien dans la boutique qui ne coûte au moins 15 shillings l'aune. Camilla protesta qu'elle ne voudrait pas donner 10 shillings l'aune pour quelque robe que ce fût. Mrs. Mitin, qui s'était flattée qu'il lui reviendrait au moins de cette affaire le mouchoir et le tablier, peut-être même une robe, fut fort déconcertée de ce contretemps. Elle sortit en murmurant que c'était un trait d'avarice et laissa Camilla désolée de ne voir aucun moyen de parvenir à ses fins. Après une assez longue absence, Mrs. Mitin revint avec l'air effaré. L'homme dont elle avait eu le linon était un marchand voyageur qu'elle avait trouvé chez un de ses amis. Il n'avait pas attendu qu'elle revînt, il avait emporté les 15 livres sterling qu'il avait bien fallu lui laisser pour garantie de sa pièce. Camilla fut au désespoir. Rien au monde n'eût pu l'engager à faire, de propos délibérés, une aussi folle dépense. Cependant, elle se voyait dépouillée, en un moment, des 3/4 de tout ce qu'elle possédait, tant pour son usage que pour l'acquis de ses dettes. Mrs. Mitin observait sa détresse avec plus d'humeur que d'intérêt. Elle lui proposa de mesurer la pièce et de la partager en 3, espérant en faire prendre une à Mrs. Burlington et l'autre à Miss Lynmer. Cette idée tranquillisa Camilla, mais ce moment de satisfaction dura peu. En développant la pièce, on trouva qu'après les premières zones que Mrs. Mitin avait scrupuleusement examinées, tout le reste était déchiré. Le mal étant alors sans remède, le seul moyen de consolation qui restait fut de faire faire l'habillement au meilleur marché possible. Et Mrs. Mitton connaissait une personne qui, pour l'obliger, l'entreprendrait au prix le plus modique. Elle promit, en outre, de lui procurer tout le surplus de sa parure pour une très petite somme. Mais, bien résolue de ne plus remettre ses finances en de pareilles mains, Camilla lui demanda positivement le reste de son argent. Mrs. Mitton, quoique piquée, lui remit honnêtement 5 livres sterling. Les petits articles qu'elle avait achetés de temps à autre n'étaient pas encore payés. Cette femme ne retenait l'argent que pour se donner de l'importance, pour pouvoir se vanter de la confiance dont elle jouissait auprès de certaines personnes, et tirer sa bourse quelquefois en présence de celles qui n'en pouvaient montrer autant, mais sans aucune intention de tromper ou d'abuser du dépôt. Le bal devait avoir lieu dans 3 jours, et 3 jours après le bal, il fallait partir de Southampton. Camilla respirait à peine, impatiente de voir arriver cet heureux moment. Le bal devait encore être précédé d'une promenade sur l'eau dans la matinée du jour où le divertissement aurait lieu. Fin du tome 4e.